mes amis, je vous demanderai un moment de silence et de recueillement devant le Seigneur. Ô notre Dieu, nous allons ouvrir ta parole et nous voudrions en son te rendre grâce de nous l'avoir donnée, de ne pas nous avoir laissé sans instruction au sujet de tes pensées. Et nous savons que ta pensée à l'égard de toutes choses, c'est cela la vérité. Donne-nous donc de la découvrir dans le livre, mais par-delà le livre, de la découvrir dans celui que nous révèle le livre, en la personne même de Jésus, qui pouvait dire « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Garde-nous de n'avoir, après ces rencontres, qu'une connaissance théorique des enseignements de ta parole. Donne-nous d'avoir rencontré la parole, vivante et permanente, dans la personne de celui qui l'a incarnée, qui l'a vécue et qui veut la vivre en chacune de nos âmes. Purifie nos cœurs, purifie nos lèvres, captive nos pensées et amène-les à l'obéissance du Christ. C'est notre prière, c'est notre cri, dans l'assurance que ton esprit nous assistera et que lui-même contrôlera tout ce que nous avons à entendre. Sois béni, sois loué pour la grâce qui sera notre force, notre secours, et notre pleine suffisance en ton âme. Amen. Eh bien, mes amis, en ce matin du 16 février, nous allons donc entrer dans le vif de notre sujet, la vie dans l'Église. Mais je reviendrai quelques instants sur notre introduction d'hier soir, où nous avons cru qu'avant de traiter quelques-uns des aspects de la vie dans l'Église, nous devions peut-être nous interroger sur ce qu'était l'Église. Qu'est-ce au fond que l'Église ? Et nous avons vu que ce mot pouvait avoir différents sens. Quand on questionne le monde autour de nous, on entend des réponses qui parfois peuvent nous laisser rêveurs, car il y a une grande confusion dans les esprits, même au sujet de ce qu'est l'Église. Je vous ai cité 7 réponses hier soir, sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais cela nous faisait aboutir en entendant toutes ces réponses, mais où est la vérité? Où est la vérité? Quand on entend telle personne affirmer l'Église, c'est ceci. Une autre dit l'Église, c'est cela. Et il y a confusion. Il y a 15 jours, j'ai entendu dans une église un jeune homme se lever et dire au conférencier qui avait fait son exposé sur un thème un peu similaire, « Mais moi, je voudrais bien croire, je cherche la vérité. » Mais il avait une Bible dans ses mains quand il disait ça. Il disait, « Mais quand je me tourne vers les uns, ils me disent, c'est nous qui sommes l'Église, c'est ici qu'est la vérité. » Je m'en vais un peu plus loin, puis on me dit la même chose. Quelqu'un d'autre me dit, « Mais c'est nous qui sommes l'Église, la vraie Église, et vous devez vous joindre à nous, alors vous serez dans la vérité. » Et c'était quand même poignant parce qu'il dit, je vous assure que je cherche vraiment la vérité, mais tout le monde prétend être dans la vérité, être au fond les seuls à la voir, et que si nous allons ailleurs, eh bien nous sommes sur un chemin de perdition. Je vous dis cela pour vous sensibiliser sur ce fait que, évidemment, la désunion du témoignage chrétien est véritablement un scandale. Jésus simplifiait bien les choses quand il disait, si vous voulez savoir ce que c'est un disciple, À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Et quand on voudrait être disciple de Jésus et qu'on s'adresse aux soi-disant disciples de Jésus, ils commencent de nous critiquer les autres, de nous dire « Oh, il faut rien avoir à faire avec ces gens-là hein. ». Et pourtant, ces gens-là prétendent être aussi dans l'Église. Alors, il y a un désarroi. Et ne pas souffrir de cela, ne pas soupirer après un témoignage d'unité sur ce qui est réellement essentiel, eh bien, je pense que ce n'est pas être chrétien. Parce qu'un chrétien authentique, à l'heure actuelle, il ne peut pas ne pas souffrir de l'état de confusion qui règne dans ce monde au sujet de ce qu'est l'Église. Alors on s'est dit, mais où trouver la vérité? J'ai essayé de répondre hier à cette question et nous avons vu que si, puisque c'est une vérité religieuse, une vérité spirituelle, chrétienne, il fallait consulter l'Écriture. Et j'insiste sur cela. Si vous voulez être éclairé sur un sujet ou sur un autre, si vous avez une question, n'allez pas demander à monsieur un tel ou à madame X, où est la vérité? Ça peut être madame Y, hein. Mais demandez-vous, que dit l'Écriture? Si vous avez une Bible, mais vous allez dire, oh, mais moi, j'ai pas le temps de lire l'Écriture. Vous avez tellement de temps pour d'autres choses, tout au fond. Personne n'a du temps, hein. Mais pour ce qu'on aime, on a toujours du temps. C'est simplement qu'on n'aime pas beaucoup encore la parole de Dieu. Eh bien, je demande au Seigneur qu'il nous donne le goût de la parole de Dieu, et pas seulement du Nouveau Testament, mais aussi de l'Ancien Testament. Parce que les gens qui étaient dans l'Ancien Testament, je pense souvent à mon Jérémie, il dit, ces paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées. Hein? Manger. Je dis manger, c'est aimer. Hein? Quand on aime, on mange. Oh, je t'aime tellement, je te mangerai. J'ai entendu cette expression. Même une mourante qui ne voulait pas se séparer de son mari, c'est son mari qui m'a dit cela. C'était, oh, il y a bien longtemps, oh, si, c'est Dieu. Je t'aime tellement, je ne voudrais pas te laisser cela si je pouvais te manger. Et en la mangeant, elle mourait avec elle. Alors, c'est pas très gai pour lui quand même. Mais c'est vrai, hein, quand on aime, on vient, oui, on mange. Ces paroles se sont faites trouver, je les ai mangées, et elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Ou comme dit le psalmiste, j'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin, psaume 119, hein. Ça nous donne de la joie, plus que de faire des mots croisés. J'ai de la joie. Il y a des complications, il y a des choses difficiles, mais voilà, tout à coup on trouve un verset qui éclaire un autre, qui apprend un peu plus loin. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, puis tout à coup on dit, ah mais tiens, maintenant je comprends. Mais ça, si vous avez une difficulté quand vous lisez l'Écriture, passez par-dessus, continuez, ne vous arrêtez pas, ne fermez pas le livre en disant, ça vaut pas la peine que je continue. Attendez, vous continuez votre lecture, et puis tout à coup, la lumière viendra par un autre texte. Et c'est ainsi que vous grandirez et que vous commencerez vraiment par aimer la parole. C'est donc en lisant l'Écriture que nous pouvons trouver la vérité aussi au sujet de l'Église. Et je vous disais de bien lire l'Ancien Testament, parce qu'il y en a qui nous disent, mais l'Église c'est la continuation de l'Assemblée du désert de l'Ancien Testament. Or, c'est pas cela. L'Église dans l'Ancien Testament n'est pas mentionnée. Mais je vous dis, lisez quand même l'Ancien Testament, parce que comme ça vous aurez un peu de lumière. Et je résume ce que je disais pour ceux qui n'étaient pas là. Dans l'Ancien Testament, vous voyez le monde divisé en deux. Il y a d'un côté les nations que Dieu laisse s'en aller au gré de leur conscience, parce que les nations, les païens, ont aussi une conscience. Et puis les lois naturelles, personne n'est excusable de violer les lois naturelles. Les païens aussi connaissent les lois naturelles. Et ils savent très bien que s'ils violent des lois naturelles, eh bien, ils en subiront les conséquences. Nous, les chrétiens aussi, hélas, malgré que nous avons beaucoup plus d'instructions au sujet des pensées de Dieu, bien souvent, nous faisons que violer les lois naturelles. Quand on mange trop et qu'on a une indigestion, qu'est-ce que vous avez fait? Vous dites, pourquoi est-ce que le Seigneur permet que j'ai une indigestion? Misère. Pourquoi est-ce que vous avez mangé comme, je ne veux pas dire quoi, pour en avoir une indigestion? Mais contrôlez-vous, il y a des lois naturelles. Et les païens les connaissent, et des fois les païens vivent mieux que les chrétiens. Parce que les chrétiens, parce qu'ils sont sauvés par grâce, eh bien, grossissons. Qu'on soit au ciel un jour, qu'on ait une grande place. Non, c'est ça. Alors ils ont un infarctus, ils ont toutes sortes de misères, ils se plaignent de tous leurs bobos. Ils ne font que violer les lois naturelles. S'ils avaient un peu de bon sens, il n'y a pas même besoin du Saint-Esprit pour ça. Ayez un peu de bon sens. Et puis, vous serez conduits. C'est pour ça que, peut-être pour le temps, Anaïs, nous prendrons les proverbes pour donner un peu de bon sens à nos jeunes dans l'année de la jeunesse. Hein. Car si on connaissait simplement les proverbes, eh bien, on aurait un tas d'instructions pour la vie pratique, pour la vie de tous les jours, parce qu'enfin, on ne vit pas entre le ciel et la terre. Hein. Moi, je ne suis pas en planeur. Je marche sur cette terre. Hein. Nous marchons sur la terre et nous avons des décisions à prendre sur la terre. Mais quand on a la connaissance des proverbes, le Saint-Esprit, qui devient notre mémoire, nous rappelle au moment opportun un texte, peut-être des proverbes, qui devient tout à coup une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir la Bible et puis dire, ah ben oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors je touche un verset. Et vous savez combien c'est dangereux cela, parce que... Je ne vais pas vous raconter des histoires là, mais je pourrais vous en dire, oui, de ceux qui ont piqué un verset, et des miennes, moi-même, qui ai fait ça aussi, parce que je suis un homme comme les autres, et on peut avoir cette tentation dans un moment difficile, puis le Seigneur nous corrige d'une drôle de manière. Enfin, passons, alors nous cherchons la vérité. Dans l'Ancien Testament, le monde est divisé en deux, donc les nations que Dieu laisse aller au gré de leur conscience, et des lois naturelles qu'il leur a révélées aussi. Et puis, il y a un peuple, le peuple juif, et qui, lui, a reçu, en plus de la connaissance des lois naturelles et de sa conscience, une loi divine. Dieu a parlé. Ils ont entendu cette voix qui leur disait ce qui était bien et ce qui était mal, ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont entendu cette voix et même ensuite, ils ont reçu sur des tables de pierre ces commandements écrits pour qu'ils s'en souviennent. Mais hélas, nous avons vu que même avec une révélation plus grande, les Juifs ne se sont pas du tout améliorés. Mais dans l'Ancien Testament, tout ce qui n'est pas nation fait partie du peuple juif. Tout ce qui n'était pas juif fait partie des nations. Voilà, deux grands groupes. Puis on a vu que quand on arrive au Nouveau Testament, on voit ces deux grands groupes, enfin les représentants de ces groupes, les descendants d'Israël, les Juifs, qui se trouvent revenus de la captivité de Babylone, ils sont en Palestine, et puis qu'est-ce qui occupe la Palestine à ce moment-là? Les Romains, hein, représentants des nations. Alors vous voyez, les représentants de la conscience, les représentants de la loi sont ensemble, mais ils sont ennemis. Mais voilà que naît à ce moment-là le Seigneur Jésus, celui qui avait été promis dans toutes les Écritures. Jésus, fils de Marie, le fils de la Vierge, vient dans ce monde. Et j'abrège, que se passe-t-il? Eh bien, lui qui est juif, qui seul rend la loi grande et honorable parce qu'il la vit, il a la loi, lui, pas sur des tables de pierre, mais écrite au fond de son cœur, au fond de ses entrailles, comme l'avait dit le psalmiste au psaume 40, eh bien, il devient un gêneur pour son peuple, parce que le peuple se réclame toujours de la loi, les chefs, les pharisiens prétendent observer la loi, se réclament de la loi, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils la transgressent. Alors, de voir quelqu'un qui ne fait pas comme eux, qui, quand il prêche, on peut dire, il vit ce qu'il prêche, hein, c'est vrai. Et c'est cela qui donnait de l'autorité à Jésus. Il n'enseignait pas des choses contraires à la loi, mais ce qui faisait son autorité, c'est que quand il disait qu'il fallait aimer Dieu, on voyait ce que c'était qu'aimer. Les pharisiens aussi disaient qu'il fallait aimer Dieu. Mais ils disaient, tu aimeras. Quand Jésus disait, tu aimeras. Mais on voyait ce qu'était l'amour en lui. Et puis, il résumait aussi la loi, le prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les pharisiens aussi disaient ça. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et évidemment, on ne voyait pas l'amour. Tandis que quand Jésus disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on voyait en lui ce que c'est qu'aimer le prochain. Il se penchait sur les besoins du prochain. Alors, cet homme qui vivait ce qu'il prêchait, il est devenu un gêneur. On n'a plus pu le supporter. Il n'y a pas besoin de parler, vous savez. Il suffit de vivre en chrétien dans son milieu pour que l'on soit, pour les uns, une odeur de vie. Il y a des gens qui seront attirés par votre témoignage. Et puis, pour d'autres, une odeur de mort. On vous détestera, n'est-ce pas? Mais pas parce que vous avez dit des choses méchantes à leur égard, mais simplement, vous ne faites pas ce qu'ils font, ça les juge. Et on voudrait se débarrasser de vous. Ben, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Mais ces Juifs, ne pouvant pas faire mourir eux-mêmes Jésus, ils devaient avoir l'autorisation des Romains, ils ne pouvaient pas mettre à mort quelqu'un, alors ils l'ont livré aux Romains. Et alors c'est là que vous voyez, les Romains, eux, ils avaient une conscience, et Pilate, sa conscience a parlé très fort. Hein. Et même la femme de Pilate l'a averti, n'ayez rien à faire avec ce juste. Et lui-même, convaincu qu'il était en face d'un innocent, il a fait taire sa conscience, par crainte des hommes, parce qu'on lui a dit, si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Pour quelle raison? Parce que il avait dit, Jésus avait dit qu'il était roi. Alors les Juifs qui détestaient César ont osé dire, il faut se débarrasser de Jésus, nous n'avons pas d'autre roi que César. Vous voyez comme on est tordu. Hein? Nous sommes des tordus. Que Dieu soit vrai et tout homme menteur, mais placé dans une certaine situation, nous renions tout ce que nous professons. C'est vrai ou c'est faux? Quand on est dans une certaine situation et qu'on se laisse influencer par ces craintes que l'on a, quand Pilate a entendu « si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César », eh bien, quoi qu'il sache que Barabbas était le brigand, il a relâché Barabbas pour plaire aux Juifs. Et que les Juifs ne fassent pas un mauvais rapport à Rome, pour plaire aux Juifs, il leur relâcha Barabbas, qui était un brigand. Alors, depuis ce moment-là, vous voyez, c'est la faillite de la religion de la conscience. Et ça, c'est encore actuel. Il y a des gens qui vous disent, moi, mon Dieu, c'est ma conscience. Il n'est pas sûr, ce Dieu-là. Parce que la conscience, on peut la faire taire. Hein. Ce n'est pas un guide infaillible, la conscience. Puis la conscience des uns, elle ne leur reproche rien. Ils font ça, mais ils disent, mais il n'y a pas de mal à ça. D'abord, tout le monde le fait. Hein. De sorte que ne prenez jamais votre conscience comme un guide infaillible. Parce que la conscience, elle peut s'habituer au mal, puis elle ne crie plus très fort. Puis on arrive à la faire taire. Donc la conscience n'est pas un guide infaillible. La conscience peut vous jouer de très mauvais tours. Pilate a fait taire sa conscience. Et puis la connaissance biblique, la connaissance des textes. Voyez-vous, je voudrais vous le dire et le redire, c'est pas parce que vous connaîtrez la Bible, c'est pas parce que vous connaîtrez même un tas de versets bibliques par cœur que vous serez gardé de fauter. C'est seulement si par-delà les textes, vous avez une relation avec qui? Avec celui qui est la parole vivante. Voyez-vous, je l'ai dit cela, et c'est vrai, le catholicisme a enfermé le Christ dans l'hostie, mais les protestants, et souvent aussi les évangéliques, nous avons enfermé le Christ dans un livre. Alors on devient des bibliolâtres. Hein. J'adore pas la Bible, j'ai pas besoin de baiser la Bible. Bon, ça me servira à quoi de baiser la Bible? Vous croyez qu'elle répond quelque chose? C'est tout de la singerie, ça. La Bible, c'est une parole, mais une parole qui me met en contact avec qui? Avec quelqu'un, avec le Seigneur. Et c'est par la Bible, évidemment, que j'apprends à connaître le Seigneur, mais je suis un adorateur non de la Bible, mais un adorateur du Seigneur. Un adorateur de la personne que la Bible me révèle. Et qui est-ce qui est la parole de Dieu? C'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Jésus.
Mais évidemment, la parole qui me le révèle, c'est aussi la parole de Dieu. Mais il faut aller plus loin que les textes d'imprimerie, il faut aller à la personne que le livre nous révèle. Parce que vous pourrez avoir votre Bible dans la poche, vous pourrez avoir votre Bible dans votre cercueil, vous pourrez avoir votre Bible dans le crématoire, parce que même si vous brûlez, vous voulez brûler avec la Bible, vous pourrez avoir vos cendres dans l'espace, avec les cendres de la Bible en même temps, et tourniquer le reste du temps dans l'espace à n'en plus finir. Hein. C'est pas ça qui va vous sauver. Croyons-le, mes amis, on est dans un monde de fous. Alors, bien, puisque maintenant, on vous dit, vous pourrez aller dans l'espace, réjouissez-vous, mes amis, vous pourrez aller dans l'espace, vous aussi, ça coûtera à peu près 2 000 $, vous serez dans une petite boîte, comme ça, et ce seront vos cendres. Alors, j'irai dans l'espace une fois mort. Voilà ce qu'on lit dans les journaux, voilà ce qu'on nous dit maintenant, c'est les grandes nouvelles. Il y a déjà toute une liste de gens qui se sont inscrits pour aller, puisqu'ils ne veulent quand même pas polluer l'espace, alors il paraît qu'on sera dans une petite boîte. La folie de ce monde. Donc, mes amis, que vous soyez juifs, que vous soyez païens, eh bien, nous sommes tous, on en arrivait là hier soir en Montreuil, nous sommes tous coupables du rejet de Jésus-Christ. Du rejet de Jésus-Christ. Ils se sont mis d'accord pour crucifier le Sauveur. Quand je suis au milieu des Juifs, je leur dis pas, vous avez tué le Messie, je dis, vous nous l'avez livré, et nous les Romains, nous les païens, nous l'avons crucifié. Alors ça passe le message, hein. Pas les accuser d'être le peuple déicide. Vous nous l'avez livré, et nous, d'origine païenne, nous l'avons crucifié. Mais nous sommes tous coupables devant Dieu, devant la croix, nous sommes tous coupables, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Si on en était capable, nous tuerions le Seigneur, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui reste à des criminels? Un seul espoir, la grâce. Et c'est ça. On arrive à cela. Avec l'évangile après la crucifixion du Christ, Dieu, au lieu d'exterminer les pécheurs, il dit, eh bien, j'accepte le sacrifice de mon Fils comme expression de son amour et de mon amour pour tous les hommes, et ceux qui veulent croire en mon Fils ressuscité, je leur accorde la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce. Mais souvenez-vous du prix de la grâce. La grâce a coûté la vie au Seigneur Jésus. Alors, maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament, disions-nous. Puis alors, quand on lit le Nouveau Testament, nous voyons justement apparaître un troisième peuple. Après la mort et la résurrection de Jésus, on voit un troisième peuple. Il y a toujours les Romains, enfin les Grecs ou les païens. Il y a les Juifs. Et puis, du sein des païens, ou d'abord du sein des Juifs, il y a des gens qui se convertissent au Seigneur et qui forment un troisième peuple, qui est appelé l'Église de Dieu. Dieu, depuis qu'il fait annoncer l'Évangile après la venue de Jésus, eh bien, Dieu, dans son amour, suscite un troisième groupe qui est appelé l'Église de Dieu. Ils étaient d'origine juive, mais se sont convertis au Seigneur. Ils étaient d'origine païenne, ils se sont convertis au Seigneur. Puis maintenant, ils ne sont plus ni juifs, ni grecs, hein, mais ils sont du Christ. Ils sont en Christ. Parce que quand on accepte Christ, ça veut dire qu'on renonce à quoi? À soi, à sa nationalité, à tout ce que l'on est par nature. À tout ce que l'on est depuis notre naissance, on renonce à tout cela, on accepte ce Jésus en croyant qu'il nous a pris avec lui dans sa mort pour mettre fin à notre vie de péché, et puis il ne nous a pas laissé dans la mort puisqu'il en est sorti. En sortant, il nous a pris avec lui et nous sommes ressuscités en lui. Nous sommes nés de nouveau, mais on est nés de sa mort, hein. Et de sa résurrection, parce qu'on ne peut pas renaître sans ça. C'est quelque chose de merveilleux. Et maintenant, nous sommes en lui, troisième peuple. Et c'est ce peuple que je soulignais dans le chapitre 10 des Corinthiens. Il y a toujours les Grecs, il y a toujours
les Juifs, et puis il y a l'Église de Dieu. Alors, en nous penchant de nouveau sur l'Écriture, nous avons vu comment cette Église s'était formée. Et vous voyez, à ces questions que nous nous posions hier soir au début, on commence de pouvoir répondre, non pas par mes idées, mais par la parole de Dieu. On cherche où est-il question de l'Église. Et on apprend dans le chapitre 16 de Matthieu, que Jésus avait posé cette question, qui disent les hommes que je suis moi le Fils de l'homme. Alors on lui a répondu, les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et puis vous savez que c'est l'apôtre Pierre qui s'écrit, tu es le Christ, c'est-à-dire loin du Seigneur, le Messie, celui qui était promis dans tous les prophètes. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant. Et c'est là que le Seigneur prononce ces paroles extraordinaires. Eh bien, mon Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu n'as pas trouvé ça tout seul. Donc, il ne peut pas se glorifier. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas monté de ton cœur naturel, Pierre, de faire une déclaration pareille que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est mon Père qui est dans les cieux. Cette révélation, tu l'as reçue de mon Père. Vous voyez, on nous dit qu'il ne faut pas parler du Père. Ben, si le Père disait rien, si le Père ne nous révélait rien, on ne comprendrait jamais Jésus. On ne saurait pas qui est Jésus. Et parce qu'il y a l'ignorance du Père au Québec, beaucoup pensent connaître Jésus et ne connaissent pas le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus, il transformerait la vie d'une autre manière. Et vous savez, le Jésus, nouvelle drogue ou dernière drogue, j'en ai peur. Ce n'est pas votre dernière chance, Jésus. Ne n'employez jamais cela quand vous voulez évangéliser. Jésus, votre dernière chance. Est-ce que vous apportez à des paumés? C'est pas votre dernière chance, Jésus. Jésus, c'est le grand sauveur. C'est celui qui peut tout. C'est celui qui ne vous donne pas une chance. C'est celui qui vous poursuit, c'est celui qui vous cherche, comme un bon berger cherche une brebis perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Parce que quand vous dites c'est votre dernière chance, eh bien, vous vous attribuez encore la gloire. Non. Jésus, il nous révèle le Père, et c'est lui qui a dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et c'est là qu'il lui affirme, tu es Pierre, et sur ce roc, et j'étais tellement heureux, je le dis en passant encore, que Jean-Paul II a dit, le roc, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Et je suis venu pour témoigner de la foi de Pierre. Alors donc, voilà toutes sortes de discussions entre catholiques et nous autres, et qui tombent parce que on peut leur dire, mais même votre pape est d'accord pour dire que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Mais alors, attention! Sur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, puisque les croyants sont les premières pierres, qui sont les premières pierres sur la pierre? C'est les apôtres, n'est-ce pas? Et le premier, puisqu'il est appelé le premier, non, on ne peut pas enlever ce verset, il faut être honnête. Voyez-vous, je vous demande de l'honnêteté. Il faut être honnête quand on parle avec les âmes, et il faut reconnaître ce que l'Écriture dit. Qui peut être la première pierre sur la pierre? C'est l'apôtre Pierre et les autres apôtres. Et les autres apôtres. Mais pourquoi Pierre est appelé le premier? Parce que Dieu avait pour Pierre un destin tout à fait particulier. C'est lui qui était choisi par Dieu pour pouvoir annoncer le premier, après la Pentecôte, l'Évangile à tout le peuple réuni à Jérusalem. Il ne faut pas enlever ça. C'est comme au sujet de Marie, on dit que moi j'ai une dévotion pour Marie, je me moque bien de ce qu'on dit de moi, mais mes amis, Marie c'est quoi? C'est la dernière des créatures? C'est la mère de qui? De mon Seigneur. Alors pourquoi est-ce que je n'essayerai pas de comprendre tout ce que Marie aussi peut m'apporter comme enseignement? Parce que pour être devenue la mère de mon Seigneur, ben, le Seigneur n'a pas choisi n'importe qui. Hein? Vous avez lu l'histoire de Noé? Toute la terre était corrompue, mais il y en a un sur lequel Dieu arrête ses regards. C'est qui? Non, il était parfait parmi ceux de son temps. Il marchait avec Dieu. Écoutez la petite Marie, qu'est-ce qu'elle avait dans son cœur pour pouvoir exploser comme elle l'a fait au Magnifica à Incarem quand elle est allée trouver sa cousine Elisabeth. Elle n'a pas dit qu'un peu un morceau de papier, je voudrais écrire un poème. C'est ce qu'elle a dit? Non, quand Jean-Baptiste, le petit enfant, a tressailli dans le cœur d'Elisabeth et qu'elle entend la parole de sa cousine qui lui dit « Bienheureuse est celle qui a cru » car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites. Comme on a vu ce matin, je ne pouvais pas allonger parce que c'était des enfants. Quand Dieu fait dire que Jéricho, celui qui voudra la bâtir, il perdra son premier-né et son plus jeune fils, est-ce que ça a eu lieu? Oui, des siècles après, hein. Mais ça a quand même eu lieu, et ça s'est accompli. Moi, je crois à une parole qui s'accomplit, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Ça s'accomplit. Alors, nous devons être des gens absolument sérieux. Eh bien, Marie, quand elle a entendu la salutation d'Élisabeth, elle qui était au début de sa grossesse, qui avait été faite par le Saint-Esprit, elle loue le Seigneur. Elle prononce ce Magnificat que j'aime tellement. Quelle prière, quelle louange. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Puis elle a une menace de mort, hein, parce qu'elle ne sait pas encore que Joseph va la croire. Elle ne sait pas qu'un ange sera envoyé à Joseph qui voulait la répudier. Elle a dû vivre de... Marie n'a pas été sauvée par ses œuvres, elle a été sauvée par la foi. Jean-Paul II a osé dire, malgré qu'il était dans un pays et que lui-même est assez mariolas, Marie, la première graciée, hein, il l'a écrit en toutes lettres. Alors, réjouissons-nous de ces petites lueurs de vérité, la première graciée. Et dans une conférence que je faisais en milieu catholique, quand quelqu'un m'a posé cette question, en me disant, vous avez dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, vous avez oublié quelqu'un. Alors j'ai dit, qui? Elle dit, Marie. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a 300 personnes là-dedans. Beaucoup de prêtres. Vous aimez Marie? Oui. J'ai dit, moi je crois que je l'aime encore plus que vous. Alors ça jette tout de suite une autre atmosphère. Et pour vous le montrer, nous allons réciter le Magnificat ensemble. Alors on a récité le Magnificat. Puis je l'ai fait faire 3-4 fois, les premières paroles. Puis je les arrêtais, je disais stop, on recommence. Parce que j'ai pas peur. Chez nos amis catholiques, ils ont l'habitude de réciter les prières plusieurs fois. Alors on a recommencé 3 fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Pas pleine de grâce, je vous salue. Non, pardon, je me trompe, ça c'est la... C'est l'Annonciation, vous voyez, je vieillis. Hein, mais, le Magnificat, ça commence comment? Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit se réjouit au Dieu mon Sauveur. Stop! Bon, on recommence. Ils ont commencé. Stop! Une troisième fois. En Dieu mon Sauveur. Stop! Je dis, qu'est-ce qu'elle a dit? Tout le monde a dit, elle a dit mon Sauveur. Donc, vous voyez, c'était arrivé à la centrale. Ils avaient compris. Alors, il n'y avait plus besoin de discuter. Elle a dit mon Sauveur. Et là, un prêtre est venu au micro en disant, oui, je voudrais souligner ce qu'a dit mon frère Gaston, Marie a été sauvée par le précieux sang de Jésus. Ça affirmait encore la chose. Mais n'est-ce pas, il nous faut travailler, mais dans un esprit d'amour. L'affection fraternelle aussi, hein, nous verrons. Hein. Il y a une manière, vous pouvez rester solide sur la vérité, mais il y a la façon de la dire. Et la façon de la dire, Jésus disait à quelqu'un qui n'était pas encore tout à fait dans la vérité, tu n'es pas loin de la vérité. Tandis que nous, on dit, il y a encore un gouffre entre moi et vous. Hein? On est comme ça. Alors, vous ne pouvez plus discuter, c'est fini. Vous fermez la porte. Vous creusez le fossé. Mais prenez un peu ce qui pourrait un peu nous rapprocher. Ça ne veut pas dire que qu'on démissionne, mais qu'on pense. En vue qu'il y ait un vrai pont et qu'on se rencontre en Jésus. Comprenez-vous? Et c'est cela, mais le vrai Jésus, le Fils du Père, et en croyant que, puisqu'il vous a sauvé, il peut bien sauver les autres. Vous voudriez, vous, entrer, puis que tous les autres soient derrière la porte? Mais moi, je suis sauvé. Les autres, derrière la porte. Non. Quelquefois, je me suis dit, j'aimerais mieux rester derrière la porte pour que tous les autres puissent entrer.
Vous direz, vous, écoutez, ne vous prenez pas, ne faites pas votre petit Moïse, ne faites pas votre petit Saint-Paul.
Oui, parce que c'était des hommes comme ça, je disais.
Retranche-moi ton livre, mais sauve le peuple. C'est beau, ça. Hein?
Il ne pense pas à son salut à lui. Mais retranche-moi de mon livre, de ton livre, mais sauve le peuple. Puis Paul dit, j'ai souhaité être anathème pour le salut de mes frères. Que eux soient sauvés et que moi-même, je sois damné. Voilà. Quand on est vraiment sauvé, c'est cela qu'on voudrait. On ne peut pas penser qu'il y aura des âmes qui seront dans les tourments éternels, c'est-à-dire éloignées de la face du Seigneur, quand on connaît ce qu'est la face du Seigneur. Dieu nous a beaucoup parlé dans la semaine dernière au sujet de ces sentiments qui devraient être en nous, et que nous ne soyons pas comme Jonas. Jonas comptant pour lui un puits. La vie du ciel est détruite. Puis enfin, il voudrait presque qu'elle soit détruite pour qu'on dise « c'était un vrai prophète ». C'est un vrai prophète, ce qu'il a dit est arrivé. On aime bien, hein, on prêche le jugement, puis voilà, le jugement arrive. Mais si, au lieu d'attendre que le jugement arrive, on était comme Abraham, qui se jette à genoux pour prier pour quelle ville? Sodome. Parce qu'il sait que les anges vont pour la détruire, mais lui sait aussi qu'il y a un Lot qui est là. Qu'il y a sa femme, qu'il y a ses filles. Alors il dit pas, oh ben oui, Sodome, il y a longtemps, ça devait arriver. Il dit, mais Seigneur, toi le juge de toute la terre, est-ce que tu n'auras pas pitié s'il y a un? Enfin, il n'a pas dit un, il a d'abord dit 50, puis après il est descendu à 45, à 40, à 35, à 30, et puis il est arrivé à 10. S'il était allé au moins jusqu'à 1, mais enfin, il s'est arrêté à 10. Il n'y avait pas 10 justes. Sodome. Mais vous voyez qu'il a cherché dans l'intercession à sauver quelques personnes de Sodome. Voilà les sentiments qui devraient nous habiter. Ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui a préféré mourir pour sauver le monde que d'avoir donné simplement un bel exemple en Israël et puis repartir avec Élie et Moïse dans la gloire, depuis la montagne de la transfiguration. Non, c'est pas ça qu'il a voulu. Il a voulu que les âmes soient sauvées. Et il savait qu'il fallait, pour cela, il mourut. Eh bien, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église et te donnerai les clés du royaume des cieux. On a vu comment Pierre avait été employé après la Pentecôte. Quand le Seigneur est remonté au ciel et leur a donné le Saint-Esprit, c'est lui qui a prêché l'Évangile. C'est le chapitre 2 que vous avez sous les yeux. On vous demandait peut-être aussi de lire tout le chapitre pour bien mettre dans le contexte les versets qui seront plus spécialement l'objet de notre étude. Et alors, évidemment, j'avais à cœur, après vous avoir montré comment l'Église était formée, donc d'individus qui avaient cru au Seigneur Jésus, ils ont entendu l'Évangile de Pierre, la prédication de l'apôtre Pierre, qui restaurait après sa trahison, son reniement, le Seigneur l'a restauré, et c'est lui qui a reçu vraiment l'onction du Seigneur pour exposer au peuple le jour de la Pentecôte le pourquoi de se parler en langue et de tout ce qui se passait dans la ville. Et alors les gens ont été saisis. Moi j'aime beaucoup. Si vous voulez faire de l'évangélisation, bien appliquez-vous à relire ce chapitre, à voir comment Pierre prêchait, ce qu'il a apporté, comment il s'est servi de l'Ancien Testament pour présenter Jésus-Christ, pour présenter sa mort et pour présenter sa résurrection. Il est ressuscité. Alors les gens ont été saisis de componction, dit l'Écriture dans une certaine version, ici dans Second, ils eurent leur cœur vivement touché. Vivement touché. Pas par le prédicateur, mais par le message, par ce qu'il avait dit. Et puis, c'est eux qui ont dit, que ferons-nous, frères? Mais je désire vraiment qu'on arrive à des réunions d'évangélisation où après le message, on n'ait plus besoin de faire de ces appels, parce que je crois que l'appel, il est absolument dans le message, et que si on a entendu l'appel dans le message, il y a la réponse. On n'a pas besoin d'assassiner les gens pour qu'ils sortent, pour qu'ils se lèvent, pour qu'ils viennent, etc., avec tous les moyens de conditionnement d'une salle par la musique et autre chose. Que d'autres le fassent, ça c'est leur affaire. Chacun de nous aurons à répondre au Seigneur. Mais maintenant, il semble qu'on ne peut plus faire de l'évangélisation simplement en prêchant la parole. Il faut toujours qu'on ait toute une organisation, toute espèce de moyens. Il faut qu'on ait récolté un tas de fonds, l'argent. Puis, autrefois, on disait, mais l'Église catholique, c'est l'argent. Puis maintenant, dans nos milieux, c'est l'argent. On se ressemble drôlement. Alors, voyez-vous, c'est pas cela qui compte. Mais quand la parole a touché les cœurs, eh bien, les gens sont saisis. Puis ils demandent. C'est d'eux que vient la demande. Que ferons-nous, frères? Mais vraiment, si on était conséquent et qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, repentez-vous. Mais la vraie repentance, non, on aime plutôt leur dire, si vous acceptez Jésus-Christ, vous serez heureux. On est des petits menteurs, nous les prédicateurs. Parce que si vous acceptez Jésus-Christ, vous allez souffrir. Et c'est ça que nous devrions dire. Et je vous promets que les gens... Moi, j'ai béni Dieu, parce qu'avant une des graves opérations que j'ai eues de la colonne vertébrale, j'ai eu une infirmière qui est venue me dire, s'asseoir à côté de mon lit le soir, puis m'a dit, vous savez, M. Racine, vous allez terriblement souffrir. Ça va être extrêmement dur. Mais ne craignez pas, voilà comment vous devez faire, etc. Mais j'étais averti, et quand j'ai terriblement souffert, je ne me suis pas désespéré, je le savais. Elle me l'avait dit. Et je remercie cette infirmière m'ait dit ces choses, elle m'a averti, alors j'étais préparé. J'ai pas pensé, je m'en vais plus mal, je m'en vais mourir. Puis si j'étais mort, ben, c'était pas une catastrophe, j'allais vers le Seigneur. Mais quand même, on n'aime pas la souffrance. Et surtout une souffrance, on ne sait pas comment, si ça va augmenter, mais je savais que ça diminuerait, finalement. Eh bien, voilà, on est averti. Jésus n'a jamais trompé quand il invitait les gens, ou que les gens voulaient tout de suite venir avec lui, il leur disait, tu veux me suivre? Tu vas souffrir, renonce à toi, prends ta croix et suis-moi. N'est-ce pas? Il y a une loyauté dans le Seigneur. Eh bien, dans la prédication de Pentecôte, je vois les mêmes choses. Je vois un Pierre qui a exposé la parole. La parole est comme une épée à deux tranchants. Elle a atteint la conscience. Elle a atteint les cœurs. Les gens se sont sentis concernés. Ils se sont vus dans cette parole. Ils se sont dit, c'est pour moi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, repentez-vous. Il annonce la repentance. Croyez à l'Évangile, croyez à cette bonne nouvelle que ce crime du calvaire est devenu aux yeux de Dieu le sacrifice unique qu'il a gré pour effacer tous vos péchés. Vous méritiez la mort, eh bien Jésus est mort à votre place. Repentez-vous, confessez vos péchés, croyez, et puis ensuite soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà ce que Pierre avait dit. Et qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, ceux qui ont cru, par plusieurs autres paroles, ils les conjuraient et les exhortaient, disant, sauvez-vous de cette génération perverse, verset 41-40. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est le Seigneur. Un peu plus loin, on voit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Qu'est-ce qui ajoute à l'Église? C'est le Seigneur.
c'est pas le prédicateur. Le Seigneur. Car quand c'est le prédicateur qui ajoute les âmes, il y a des drôles de soustractions après. Parce que ça tient pas. C'est pas à ma parole, c'est à la parole de Dieu. C'est à la parole du Seigneur. C'est le Seigneur qui sauve. C'est le Père qui attire, c'est le Père qui amène au Seigneur. Le Seigneur accomplit l'œuvre par le Saint-Esprit. Et ensuite, le Saint-Esprit nous redonne au Père. Par Jésus, nous sommes redonnés au Père et je deviens l'enfant de Dieu. Et alors, j'apprends que ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est ça qui est formidable. Hein. Est-ce que vous le savez? Est-ce que nous savons tous? Vous dites, oh, mais moi, je me souviens de ma conversion, mais j'ai choisi Jésus. J'aime encore mieux vous entendre dire, il m'a choisi. Il m'a choisi. J'ai reçu l'autre jour une lettre d'une personne qui disait qu'elle ne se souvenait pas de sa conversion, du jour de sa conversion, et qu'elle avait des doutes. Alors elle avait entendu un prédicateur qui disait que tout le monde devait se souvenir du jour de sa conversion, du lieu où ça s'est passé. Mais il y en a qui ne s'en souviennent pas. Alors il avait des doutes et elle avait demandé que je donne quelques explications. Parce que le prédicateur, lui, il leur avait dit, moi, j'ai été converti sous un bouleau. Et alors, quand Satan vient me mettre des doutes, je lui dis, va voir mon bouleau. Satan, va voir mon bouleau. Si le bouleau tombe, si les castors viennent, qui coupent le bouleau, il sera plus là, le bouleau. Hein, j'ai vu ça au camp Jolibet, un castor est venu, il a coupé le bouleau de Gaston Jolin. Alors, il n'était plus le bouleau. Alors, va voir ton bouleau. Alors, si c'est ça l'assurance de mon salut, Satan va voir mon boulot. Non, il y a autre chose qui demeure, c'est la croix. La croix. Je sais que ça, et ça c'est ça, la croix. Alors, peut-être que je ne me souviens pas le jour de ma conversion, parce que tout le monde n'a pas des conversions comme Saul de Tarse, ou comme la femme samaritaine, qui peut dire, c'est un midi que j'ai rencontré. Mais on est baigné par l'eau de la grâce, on en a... Comme le 47 d'Ézéchiel que j'aime tellement, nous montre, on en a d'abord jusqu'aux chevilles des pieds, puis après ça monte, jusqu'aux genoux, puis après jusqu'aux reins, puis après on nage, n'est-ce pas? Mais on est dans la grâce, on est dans cette grâce. Mais la grâce a commencé. Il y a bien des enfants chrétiens. Vous chantez les cantiques de Clerlis de Benoît, je sais, hein, quelques-uns. Vous connaissez Clerlis de Benoît, peut-être que vous l'avez même vue. Elle est venue ici au Québec pour parler aux moniteurs des écoles du dimanche. Mais elle, Clerlis, m'a dit souvent, elle ne se souvient pas de sa conversion, on a le même âge, on a été dans les camps ensemble à l'âge de 13 ans. Eh bien, elle ne se souvient pas de sa conversion, parce qu'elle était baignée dans ces choses. Mais est-ce qu'elle est convertie ou pas? Est-ce qu'elle est sauvée? C'est ça, mais elle ne peut pas vous dire le moment précis. Et évidemment, le diable vient toujours avec ça. Hein. La question, c'est que la vie de Dieu se manifeste en vous aujourd'hui. Voilà ce qui compte, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés par grâce. Et puis nous croissons dans la grâce. Nous devons nous laisser porter par cette grâce de Dieu. Et voilà comment a été fondée l'Église. Je bâtirai mon Église. Et chaque croyant au travers des siècles qui a entendu l'Évangile est un de ces élus sauvés par grâce. Alors hier soir, j'aurais voulu évidemment vous parler encore de ce que fut le développement de l'Église à travers les âges et quelle est sa situation actuelle dans ce monde. Est-ce que je peux en dire un mot juste pour que ça lie avec le reste? Bien, vous êtes trop fatigué. Vous voyez, on part de la Pentecôte. L'Église a été fondée à la Pentecôte. Hein. Alors, partie de la Pentecôte, à la conquête des âmes, les apôtres ont accompli fidèlement leur mission. Qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? Allez dans tout le monde. Hein. Prêchez l'Évangile à toute la création. Ils étaient peu nombreux. Alors, ils sont allés, ils ont obéi à l'ordre qui leur avait été donné. On a vu des communautés vivantes qui se sont formées et dans lesquelles, qu'est-ce qui régnait dans ces communautés? L'amour, la charité du Christ. Et ceux qui acceptaient l'Évangile, donc c'était des gens
qui se repentaient de leurs péchés, qui confessaient leurs péchés et qui étaient ensuite baptisés au nom de Jésus-Christ. Et le baptême pour eux signifiait qu'à leur vie passée, ils avaient fini avec leur vie passée et qu'ils commençaient une vie nouvelle. Ils étaient identifiés au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et l'on peut dire, et c'est ça qui est formidable, sans appui humain, mais revêtu de la puissance d'en haut et des dons surnaturels, eh bien, ces premiers chrétiens, ils avaient tout en commun, ils étaient dépréoccupés de leur possession terrestre. Ça ne veut pas dire qu'ils donnaient tout, certains donnaient tout, ce n'était pas une obligation, mais ils ne pouvaient pas avoir quelqu'un dans le besoin sans eux qui avaient des moyens, eh bien, ils les aidaient. Ils partageaient entre eux ce qu'ils avaient et ils se recevaient les uns les autres comme le Christ les avait reçus. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été persécutés à Jérusalem par les Juifs, puis par les païens dans les pays où ils avaient dû fuir, mais vous les voyez qu'ils supportaient tout, ils enduraient tout et même ils espéraient tout. Et prenant à la lettre l'enseignement du Christ, il ne défendait pas sa cause avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles, persuadé que leur sang versé ferait fructifier l'Évangile. Et comment cette Église a-t-elle eu une telle expansion? C'est surtout par les martyrs. Le sang des martyrs est une semence. Et alors que le diable voulait noyer l'Église primitive dans le sang, eh bien, en faisant verser le sang des chrétiens qui ne se défendaient pas et qui allaient dans l'arène des lions à Rome en disant « pro Christo pour Christ » et qui étaient dévorés par les lions, parce que le Seigneur ne délivre pas toujours comme il a délivré Daniel, ils scellaient leur foi par leur sang. Et ce sang versé, eh bien, convertissait aussi d'autres païens. Ils étaient véritablement les disciples du crucifié, et même, il est dit dans les Actes, ils trouvaient leur joie à être estimés dignes d'être traités comme cela pour Jésus. C'était leur joie. Hein. De souffrir, non pas parce qu'ils avaient commis des crimes, mais de souffrir pour quelqu'un. De souffrir pour quelqu'un, de souffrir pour Christ. Mais voilà, vous le savez comme moi, en connaissant un peu l'histoire, les chrétiens n'ont pas été toujours persécutés, et en l'an 312, l'empereur Constantin a fait profession de se convertir dans des circonstances sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, et alors, le christianisme, qui jusque-là avait été persécuté, a été décrété tout à coup comme étant là, religion officielle. C'est la plus grande épreuve que l'histoire chrétienne ait pu avoir. Voilà ce Constantin, je ne veux pas douter même de sa conversion, mais qui croit bien faire en imposant le christianisme à toutes les personnes qui vivent dans ces états. Et c'est là qu'on a commencé de baptiser tout le monde. Et alors, les peuples qui naissaient maintenant, charnellement, qui naissaient dans les pays de l'Empire romain, étaient automatiquement des chrétiens. Ils étaient dits et chrétiens. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais enfin, ils étaient dits chrétiens. Et la religion est devenue une religion d'État, après avoir été persécutée terriblement par les empereurs Dioclétien et Galérius. Et bien maintenant, avec Constantin, eh bien, ça devient la religion d'État. Et l'Église pouvait alors s'appuyer sur le bras séculier. Et c'est là, c'est très intéressant, que vous voyez à quel moment les dons spirituels ont commencé à disparaître dans l'Église. C'est quand l'Église a pu s'appuyer sur le bras séculier, quand elle a eu des appuis terrestres. Tant que l'Église n'a pas eu des appuis terrestres, il y avait les dons surnaturel. Il y avait toute espèce de miracle, de prodige. Il n'y avait pas une assurance tout risque. Et maintenant qu'on a des assurances tout risque, qu'est-ce que vous voulez, on ne va plus déranger Dieu. Hein. On le dérange au dernier moment, quand vraiment on a tout essayé. Tous nos moyens d'abord, Eh bien, le Seigneur a retiré ses dons, puisque vous vous appuyez sur la chair, les dons ont commencé à disparaître parce qu'ils avaient la force séculière. Et alors on a vu la puissance spirituelle diminuer. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans des pays qu'on dit sous-développés, ou dans ces pays-là, j'étais au Vietnam, j'ai vu des choses merveilleuses, où on ne peut plus s'attendre, n'est-ce pas, à la force séculière, quand le gouvernement est même contre vous, eh bien, il y a des miracles qui sont passés. Le Seigneur a rendu invisibles des gens qu'on a cherchés partout, ils étaient dans leur lit, ils ne les ont pas vus, les soldats. On a voulu tirer sur un pasteur que j'avais rencontré, l'officier a demandé de tirer sur lui, un tireur d'élite, parce que le pasteur, il ne voyait pas, c'était la nuit, il lisait sa Bible, et puis, ça s'est enrayé, son fusil, le coup n'est pas parti. Alors, furieux, l'officier, lui, il a pris son revolver et puis il a voulu tirer. Et puis le revolver aussi s'est enrayé. Qu'est-ce que c'est pour le Seigneur d'enrayer un revolver? Il s'y connaît en armure aussi. Les armes de Dieu, vous connaissez l'arsenal céleste. Pourquoi est-ce qu'on a toujours peur du fusil, du revolver, de ceci, d'une bombe, etc. C'est le Dieu que vous devez craindre. Et si vous mettez votre confiance en Dieu, je ne vous dis pas qu'il vous délivrera toujours, parce qu'il peut, il se peut que nous soyons appelés à être martyrs, à sceller de notre vie. Mais ça vaut la peine hein, de mourir pour celui qui est mort pour nous. On comprend ce qu'il disait. Il se réjouissait d'être estimé digne. Ce n'est pas n'importe qui sera martyr. Parce qu'il faut aussi qu'il ait une grande foi pour ne pas renier le Seigneur dans ces moments où peut-être on le torture. Eh bien, Dieu donnera sa force à celui qui croit. Il y aura et il y a des manifestations de la toute-puissance de Dieu. Je serai à Pâques en France et l'ami qui organise toutes ces conférences à la porte ouverte m'a raconté l'histoire de deux de ces missionnaires qui ont dû, je vais raconter peut-être à quelques-uns à Mahanaïm, le sorcier et le chef de la tribu a obligé les deux missionnaires à boire un poison violent qui, enfin, ne ratait jamais personne. En quelques instants, les gens étaient morts. Et le roi de cette tribu a dit aux deux missionnaires qu'on avait arrêtés, qui venaient leur apporter l'évangile, « Mais si ton Dieu est plus fort que notre Dieu, le Dieu de notre sorcier, bien on le verra. » Et il avait préparé la potion par le sorcier, qui en a mis la dose surabondante. Et maintenant, voilà, si vous voulez continuer de nous évangéliser, buvez ça. Qu'est-ce que vous feriez? Les deux hommes, hein, c'est pas drôle d'être missionnaire. Si vous voulez être missionnaire, il faut mettre ça dans votre programme. Peut-être que je devrais mourir. Et non pas comme cette jeune fille qui était sortie d'une école biblique, puis quand elle est arrivée sur le champ missionnaire, elle a dit au directeur de la mission, « Vous savez, monsieur, je ne suis pas venu ici pour me tuer. » Alors il lui a dit, « Mais ma chère, si vous n'êtes pas venu ici pour vous tuer, retournez tout de suite à la maison. » On n'a pas besoin de gens qui viennent ici pour ne pas se faire tuer. C'est vrai, on veut servir le Seigneur avec des gants blancs. Hein, et on ne veut pas se salir. Mais on risque. On risque. Mais qu'est-ce que vous auriez fait? Ils ont des enfants, ils sont pères de famille, ils pensent à leurs femmes, ils pensent à leurs enfants. Et puis voilà, ils ont témoigné qu'ils venaient pour évangéliser, qu'ils apportaient la bonne nouvelle, que eux croyaient au Dieu Tout-Puissant, que leurs idoles, ben c'était des, elles avaient des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, etc. Et on les met maintenant à l'épreuve. Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi. C'est très facile de juger. Qu'est-ce qui les a soutenus? Qu'est-ce qui les a secourus? Le Saint-Esprit qui leur rappelle même quand ils boiront un breuvage mortel. C'est où ça? Dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Ils se sont accrochés à cette parole comme les jeunes Hébreux se sont accrochés à cette parole. Même quand tu traverseras la flamme, tu ne seras pas brûlé. Et ils sont allés dans la fournaise. Comme d'autres aussi, quand tu passeras par les rivières, elles ne te submergeront pas. Eh bien, ils ont bu. Ils ne sont pas morts. Et dans tout le village, on s'est converti. Puis, maintenant, on peut annoncer l'évangile. N'est-ce pas? Mais il y a des choses comme ça. Faut pas croire. Moi, j'y crois aux miracles. Mais on ne donne plus à Dieu la possibilité de faire des miracles. Mais on en fabrique. Mais les miracles sont des miracles. Puis ça ne s'explique pas. Un miracle, eh bien, on y croit ou on le nie, mais on ne l'explique pas. C'est Dieu qui intervient pour les siens. Mais son nom était engagé dans cette affaire. Je me suis un peu écarté du sujet, mais peut-être que ça vous aide aussi à voir ce que le Seigneur veut. Alors, cette église, c'est quand même fantastique. Ils n'étaient qu'une petite poignée. Ils n'avaient pas de grands moyens. Eh bien, vous savez, qu'en l'espace de 30 ans, l'évangile, 35 ans, l'évangile de Jérusalem était passé à Rome, la capitale du monde, alors qu'il n'y avait pas de 747 pour faire les trajets, et avait atteint Athènes, la capitale de la sagesse humaine, et Corinthe, la capitale de la luxure, parce que Corinthe était une ville absolument dépravée. C'est certainement là qu'il y aurait eu le congrès des prostituées, qui a lieu maintenant à Amsterdam. Hein. Le grand congrès des prostituées, où tous les pays ont envoyé leurs délégations pour ce congrès, parce que ces chères sœurs, eh bien, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent un permis de travail, comme les autres, elles veulent tout être reconnues comme des travailleuses sociales. Bon. Voilà où nous en sommes. Hein. Et puis, si elles ont une maladie, c'est un accident de travail. Vous entendez? Bien sûr. Et c'est absolument vrai. Je vous raconte pas des histoires. J'ai comme amie, une vraie chrétienne, oui, mais qui est à Marseille et qui s'occupe de toute la question de la prostitution. Elle me dit, mais Gaston, c'est... elles m'ont prié Saint-Rita avant de commencer le travail. N'est-ce pas? Oui, parce que Saint-Rita, c'est la patronne de ces dames. N'est-ce pas? Alors, elles vont prier pour qu'elles aient une bonne journée de travail, qu'elles aient des clients. Bon. Et puis elles remercient. C'est pas les dernières venues, les prostituées. J'ai vu qu'on disait qu'elles avaient l'air de grandes dames, aussi bien que les femmes mariées à Amsterdam, quand elles se promènent. Voilà. Mais ça, c'est cette semaine que ça se passe, ces choses-là. Alors, vous voyez que combien on a besoin de l'évangile encore. Et il y a eu des prostituées qui ont été des sauvées. Pensez à Madeleine. Hein? Et qu'est-ce qu'elle a donné après, hein? Quand on rencontre ce Seigneur, il faut pas les juger, ces femmes. Il faut les aimer. Puis toujours vous dire, moi, quand je vois une femme de ce genre, je me dis, elle est une petite fille, j'ai des petits-enfants. J'ai vu mes filles, j'ai vu mes enfants, mais tout petit, puis je me dis, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Hein? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Vous voyez, même un homme qui vole, un homme qui fait n'importe quoi, il a été un petit enfant. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je l'ai souligné encore à Grenville l'autre soir, vous devez vous occuper de vos enfants. Et quand ils sont petits, hein, c'est là qu'il faut les enseigner. Et cette tâche-là, elle appartient à la mère, en premier lieu. Parce qu'après, eh bien, ils subissent cette espèce d'influence. Mais s'ils ont reçu un enseignement avant leurs 5 ans, parce qu'à 5 ans, comme dit Freud, un enfant il est déjà formé. C'est déjà trop tard, des fois, après 5 ans. Je ne vais pas vous dire ça pour vous décourager. Mais continuez, oui, persévérez après 5 ans. Hein. Mais avant 5 ans, c'est la vraie semence. Ensemez les cœurs des enfants. Je connais des gens qui me disent, oh, pourquoi c'est de la singerie d'aller vers le berceau du petit qui a un mois et d'y faire la prière? C'est pas de la singerie, vous croyez qu'il vous voit pas? Vous croyez que ça l'impressionne pas? Puis d'abord, vous apprendriez plus vite à parler en langue si vous l'écoutiez davantage. Parce que Jésus a dit que c'était par les petits enfants, la bouche de ceux qui sont à la mamelle, qu'il a établi ses louanges. Et s'il y a une telle vague pour l'avortement, c'est parce que Satan ne voudrait plus qu'il y ait même des enfants qui louent le Seigneur par leur vagissement. Il faut interrompre les grossesses et tout ça, pour qu'il n'y ait plus de petites louanges qui montent même dans les foyers des non-chrétiens, des athées. Parce que l'enfant d'un athée, il loue aussi le Seigneur, tant qu'il est petit enfant. ce petit jasement-là, eh bien, c'est une louange au Seigneur. Les enfants louent le Seigneur. Et c'est sa force, je le dis souvent, lisez le psaume 8, la force du Seigneur. Il l'a dans ses petits-enfants. C'est par les petits-enfants et ceux qui sont à la mamelle que Dieu a établi sa force, sa puissance. Alors vous pouvez très bien voir d'où vient ce courant. Oh, on a toutes sortes d'explications de dire qu'on est contraint à cela, il faut la pilule, il faut tout au monde, n'est-ce pas, pour planifier tout cela. Mais on ne voit pas Satan qui est là derrière, qui a le visage, évidemment, que le monde aime et qui voudrait simplifier la vie des gens. Alors, malheureusement, cette Église est devenue une puissance terrestre. Au lieu de rester une puissance spirituelle, elle a flirté de plus en plus avec le monde, elle a imité le monde, elle a créé cette hiérarchie qu'on voyait dans le monde, et puis, eh bien, au lieu d'être l'Église puissance spirituelle, elle est devenue infidèle et mondaine, et elle a commencé à trahir de plus en plus les ordres du Christ, plus soucieuse de maintenir son pouvoir, son prince, sa gloire, que de servir Jésus auprès du peuple. Et alors, c'est de là qu'est sorti les communautés de la réforme, des catholiques qui ont demandé, ils ne voulaient pas sortir de l'Église, mais qui ont demandé qu'on revienne à l'Évangile. Ils ne pensaient pas faire une nouvelle Église, mais ils demandaient que l'on retourne à l'Évangile, à la soumission aux Écritures. Et voilà, plusieurs sont tombés après dans le libéralisme et le rationalisme. Tant que le protestantisme a été persécuté, il y avait vie. Hein, parce que quand ça coûtait d'avoir une Bible, pas simplement de la lire, mais d'avoir une Bible, puis si on vous découvrait avec une Bible, vous étiez pendu, vous étiez brûlé vif. Non seulement brûlez votre Bible, mais on vous brûlait avec. Alors, c'est de là que mes ancêtres sont sortis de France pour se réfugier en Suisse, pour avoir la vie sauve, ceux qu'on a appelés les Huguenots, parce qu'ils avaient l'amour du livre. Mais c'était des catholiques qui s'étaient mis à lire la Bible et qui ne voulaient plus de ces histoires d'indulgence, de tout ce qu'on faisait pour avoir quoi? De l'argent. Parce qu'il fallait construire. Jules II avait des difficultés matérielles pour finir, non pas la tour du stade olympique, mais pour finir Vatican, n'est-ce pas? Et puis pour financer les croisades. Les croisades. Une belle chose, hein? C'est en horreur, ça. Les croisades, le massacre des musulmans. Puis maintenant, on emploie encore le mot croisade. Vous croyez que vous convertirez des musulmans quand vous leur parlez de croisade? Vous organisez une croisade évangélique? Vous allez repousser les musulmans. Vous savez, ils deviennent de plus en plus nombreux. En France, on commence à le comprendre parce qu'il y a plus de musulmans que de catholiques. Mais il ne faut pas leur parler de croisade. Parce que qu'est-ce que ça leur dit, les croisades? Vous, les chrétiens, vous êtes venus pour un tombeau vide et puis vous nous avez massacrés. C'était ce que Jésus vous disait. Vous comprenez, on vit d'une façon contraire à l'Écriture, mais on est des aveugles. Demandons au Seigneur qu'il fasse tomber nos écailles. Oui, mais on ne peut pas, mais on a toujours dit cela. On n'a pas toujours dit cela, on n'a pas voulu écouter. Maintenant, peut-être qu'il faut changer. Vous ne vous convertirez jamais, alors, si vous dites, on a toujours dit ça. Il y a un moment où vous vous convertissez. Et avant de me convertir, ben, je regardais là, puis qu'est-ce que je voyais? Je voyais le panier là du volet. Puis une fois que je me convertis, je fais un demi-tour. Puis qu'est-ce que je vois? Pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas même un tableau. Hein. Mais enfin, c'est une autre vision. En tout cas, il n'y a plus le panier de volet. On a une autre vision des choses. Et c'est ça une conversion. C'est un changement. C'est un demi-tour. Alors, mes amis, où trouver l'Église de nos jours? Parce que, évidemment, à cause de l'infidélité de l'Église qui était devenue romaine, qui avait cessé d'être catholique, c'est-à-dire universelle, elle est devenue romaine, elle a cessé d'être vraiment apostolique, c'est-à-dire de suivre l'enseignement des apôtres, c'est notre sujet, l'enseignement des apôtres. Alors elle n'a plus été apostolique parce qu'elle a mélangé des choses. Eh bien, là, il y a eu donc la réforme, des églises qui ont été suscitées. Tant qu'ils ont été persécutés, eh bien, ils ont été fidèles, mais hélas, quand est venue, mais c'était pas une mauvaise chose, la liberté de conscience, hein, eh bien, on a donné la liberté à tous ces milieux, cessant d'être persécutés, le protestantisme est tombé dans le rationalisme et dans le libéralisme, en disant, on met de la Bible, oui, nous sommes les gens de la Bible, mais nous voulons l'interpréter, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on ne peut pas croire, il faut démythologiser la Bible, c'est des légendes, etc. Et alors, le protestantisme est tombé dans le libéralisme, dans le rationalisme, ni en les miracles, ni en même la divinité de Jésus-Christ. Et alors, dans le protestantisme, il y a alors des hommes protestants, mais qui se sont levés et qui, de nouveau, ont demandé une réforme de l'Église protestante, et c'est de là qu'est sorti les milieux qui ont pris naissance au siècle dernier, en particulier ces milieux dissidents qui se sont séparés des églises et qui sont devenus des communautés chrétiennes comme celles que vous connaissez encore aujourd'hui, mais où aussi vous devez faire attention de ne pas tomber dans toutes sortes d'excès ou d'être des triomphalistes, disant c'est nous et puis il n'y a plus que nous. La vraie Église, eh bien, évidemment, elle a son expression dans le rassemblement des deux ou trois croyants qui se réunissent au nom de Jésus et qui ont comme centre de rassemblement qui? Jésus lui-même. Mais souvenez-vous bien de cela, qu'il n'y a pas une Église maintenant possédant l'unité en face d'autres Églises divisées. On doit constater que par ces infidélités, l'Église a perdu son unité visible. Il y a donc une Église qui a perdu son unité visible et dont les membres maintenant sont dispersés dans divers groupes religieux, qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou protestants. Et dans la confusion actuelle et le mélange des vrais et des faux chrétiens que l'on rencontre dans toutes les églises, et je n'accepte aucune communauté, Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent. C'est vrai ou c'est faux? Voilà ce que je vais vous dire. C'est Dieu qui connaît dans tous les milieux ceux qui sont vraiment à lui. C'est pas l'appartenance au groupe qui fait qu'on est réellement né de nouveau, parce qu'on peut avoir toute espèce de manifestation et que c'est pas cela qui fait de nous les vrais chrétiens. Dieu connaît ceux qui sont siens, ceux qui lui appartiennent. Puis alors, il y a une autre parole de Paul que j'aime beaucoup dans 2 Timothée 2, en fait c'est la même, mais qu'il est dit que qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Alors, voilà les compagnons avec qui nous avons à marcher. Hein. Et qu'est-ce que c'est que l'iniquité? Eh bien, c'est le péché, c'est le désordre. Nous voulons être ensemble pour pouvoir croître dans la connaissance du Seigneur. Alors, on est maintenant, il me semble, à même d'étudier d'une façon claire ces textes. Quel est l'enseignement des apôtres? Maintenant que nous savons ce qu'est l'Église, bien disons que notre groupe, ce groupe ici, c'est un rassemblement de chrétiens qui doit devenir l'expression de l'Église véritable. Si vous voulez être formé, si vous voulez grandir et être une expression de cette Église universelle, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il y a les quatre points qui sont là, et en particulier, le premier, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête? Parce que je veux pas vous faire une indigestion, il est 11h. On s'arrête? De notre Père, nous sentons toute notre responsabilité, nous ne faisons que passer. c'est parmi les tiens qui sont rassemblés en ce lieu, et nous voulons te demander que nous puissions éprouver ta présence lumineuse, ta présence paisible, ta présence pleine de joie, et que en ce moment nos âmes soient recréées dans ton amour, afin que lorsque nous serons à nos occupations diverses, nous puissions porter encore le reflet de ce que nous aurons contemplé de ta personne, alors que toi-même tu nous enseignais, alors que nous faisions le silence dans nos cœurs pour discerner ta voix. Nous te demandons que cet après-midi, cette voix soit celle qu'entendait le prophète Élie, un son doux et subtil, et que tu nous donnes par ton esprit une mémoire pour nous rappeler des choses que tu nous auras enseignées, et que connaissant ces vérités, nous puissions les mettre en pratique, en vivre et expérimenter vraiment que ton enseignement, ta parole, contient des commandements qui ne sont pas pénibles, mais qui au contraire nous font vivre et nous donnent, au sein même de toutes nos tristesses, une raison de vivre, d'espérer et d'aimer. Pour la seule gloire de Jésus. Amen. Bien voilà, nous allons continuer notre étude sur la vie dans l'Église en cet après-midi du 16 février 1985. Et ce matin, nous avons pu souligner que l'Église visible est composée de ceux qui s'assemblent au nom de Jésus. Pour eux, la promesse qu'a fait le Seigneur quand il était sur la terre se réalise encore. Vous connaissez le texte qui est dans mon cœur, cette promesse, c'est Jésus qui l'a donnée à ses disciples en disant, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous avons cette parole dans le chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu. Et nous croyons en effet que quand nous nous rassemblons au nom de Jésus, nous pouvons jouir de la présence réelle du Seigneur. Le Seigneur est là. Quand on vient vraiment avec des cœurs qui sont désireux de le rencontrer, eh bien, il se manifeste au milieu de nous. Et si tous nos cœurs, quand nous venons à un culte ou à une réunion, si tous nos cœurs étaient déjà remplis du Seigneur, bien vous voyez, tous ces cœurs remplis du Seigneur, comme le Seigneur serait vu, serait éprouvé dans sa plénitude. Il nous faut venir avec des cœurs déjà remplis du Seigneur. Et alors, les croyants réunis ainsi, avec des cœurs remplis du Seigneur, mais qu'est-ce qui arriverait dans l'Église ? Un débordement de cette présence, à tel point que si un incrédule, un inconverti entrait au milieu de nous, il est dit que les secrets de son cœur seraient manifestés, il tomberait sur sa face, il confesserait ses péchés, et il dirait certainement Dieu est au milieu d'eux, n'est-ce pas ? La présence réelle du Seigneur, là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Vous n'allez pas pour trouver le Seigneur, mais vous allez pour entourer le Seigneur avec vos frères. Et alors, D'après l'enseignement de Jésus, la notion chrétienne d'une église ne réside donc pas dans le grand nombre. Vous savez que pour les Juifs, pour qu'une réunion soit valable, il faut qu'il soit 10 personnes. Pour quelle raison? Bien parce qu'on s'appuie sur l'intercession d'Abraham qui s'est arrêté à 10. S'il y a 10 Juifs à Sodome, Dieu dit « j'épargnerai la ville ». Alors, pour que dans la synagogue une réunion soit valable, il faut être au moins 10. Mais Jésus, lui, il nous a dit que pour qu'une réunion vraiment d'assemblée soit valable, il fallait au moins être 2 ou 3. C'est merveilleux, ça. Hein? Même une toute petite expression, 2 ou 3, c'est un témoignage. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Alors, ne nous inquiétons pas du nombre, mais venons, quand nous serions que 2 ou 3, eh bien, venons avec cette certitude, le Seigneur est là. Et dans la même portion de Matthieu, chapitre 18, il dit, si 2 d'entre vous seulement, une réunion de prière, elle est valable, si 2 d'entre vous sont d'accord, mais il faut qu'il y ait de l'accord, il faudra voir ça dans la communion fraternelle, si 2 d'entre vous sont d'accord pour demander une chose quelconque, vous rendez-vous compte, quelle que soit la chose qu'ils demanderont au Père en mon nom, elle leur sera faite. Donc, il y a une bénédiction dans ces rencontres, même si nous n'étions que 2 ou 3, qui se sont mis vraiment d'accord dans le Seigneur. La véritable Église ne réside donc pas dans le grand nombre, ni dans telle ou telle de ses institutions. Et cela, vous pouvez le trouver dans les livres de théologie, même aussi catholiques, qui soulignent que 2 ou 3 croyants unis par la prière sont une Église à laquelle appartiennent tous les privilèges du plus grand corps ecclésiastique. Mais alors, ne disons pas, ben bon, alors maintenant, nous, puisque nous sommes une Église, moi je me réunis qu'avec mon chum, hein, qu'avec celui que j'aime et qui me comprend. Non, c'est pas cela. Mais c'est pour vous montrer qu'il peut y avoir des temps si difficiles où on serait peut-être persécuté, eh bien nous ne nous découragerions pas, nous rechercherions quand même la compagnie d'un ou deux pour nous retrouver dans la prière et dans l'adoration. De sorte que dans ce monde qui est occupé par Satan, la persécution pourra surgir à nouveau, les édifices religieux pourront être fermés, et c'est le cas dans bien des endroits, hein, dans bien des pays, les édifices sont fermés, mais l'Église, elle subsiste toujours dans la clandestinité. Croyez-le, il y a Église dans la clandestinité, et les 2 ou 3 chrétiens authentiques qui se réuniront, serait-ce dans une cave, une grange, les grottes des montagnes, comme ce fut le cas en France, pour invoquer ensemble le nom du Seigneur, eh bien, seront toujours, dans leur témoignage, une expression visible de l'Église invisible. Et cela, ça se trouve au Vietnam, ça se trouve en Chine, ces églises qu'on appelle les églises du silence, mais moi je vous promets que ce n'est pas des églises silencieuses. Hein. C'est des églises vraiment, oui, qui sont dans la clandestinité, mais dont les prières vraiment montent au trône de Dieu. Et ils se réunissent par besoin spirituel. Alors je voudrais simplement dire cela pour terminer sur cette grande introduction que j'ai eu à cœur de vous donner avant d'entrer dans le texte de Acte 2, verset 42. Je voudrais souligner que, comme autrefois, Pierre, sur la montagne de la Transfiguration, les chrétiens, hélas, ont cru devoir dresser des tentes. Hein. Vous vous souvenez ce que Pierre dit au Seigneur quand il voit Élie et Moïse qui parlent avec le Seigneur. Il s'était d'abord endormi, Pierre, avec les disciples, puis tout à coup il se réveille, puis il dit, mais Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Mais c'est bien nos idées, n'est-ce pas? On est toujours prêt à faire nos tentes et à nous séparer. Hein? On fera des petits groupes, un petit groupe ici, un petit groupe là, un petit groupe là. Faisons trois tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Et le Seigneur avait une pensée bien différente. Je dirais que Dieu n'a que faire de nos tentes imperméables dans lesquelles nous vivons sans contact avec nos frères. Parce que c'est vrai, une fois que vous avez décidé d'être dans une tente, eh bien, vous restez dans votre tente, et pour finir, vous ignorez ceux qui sont dans l'autre tente. Et puis, on n'a plus vraiment ce contact. Or, il faut garder ce contact les uns avec les autres. Alors, la pensée du Seigneur, c'était pas de faire trois tentes, mais c'était de les réunir tous sous la nuée glorieuse. La nuée glorieuse allait les couvrir et ils étaient tous rassemblés dans l'unité et dans la charité, ne se réclamant plus d'une tradition ni du nom d'un homme, si pieux soit-il, parce que dans toutes nos tentes, eh bien, il y a des noms. On met un nom bien souvent, le nom d'un homme, le nom d'un fondateur d'église. Eh bien, c'est pas ça que le Seigneur voudrait. Parce qu'alors, il y a la tente de Calvin, alors il y a des calvinistes. Il y a la tente de Wesley, alors il y a les méthodistes. Hein. Et puis, il y a d'autres tentes, la tente de Calvin, alors c'est les luthériens. Et puis, il y a la tente des Mennonites, alors c'est Simon, et il faut toujours remonter à cela. Et puis, le danger, peut-être aussi, dans les assemblées, eh bien, on n'aime pas du tout qu'on nous appelle Darbistes ou Plymouthistes ou les descendants de Georges Müller, qui suivent Georges Müller. Mais enfin, on a toujours un peu ce danger de se réclamer d'un homme, s'il peut être vraiment un homme de Dieu. Nous croyons que Calvin, Luther, tous ces hommes-là ont été des hommes de Dieu, comme Wesley aussi, comme Darby aussi, comme Georges Müller, Groves et d'autres, et qui ont été grandement employés. Mais en fait, c'est pas en leur nom qu'on se réunit. Nous nous réunissons autour du Seigneur. Et nous pouvons peut-être avoir des traditions un peu différentes, c'est pas cela qui compte. Ce qui s'est passé sous la nuée glorieuse, c'est qu'on a entendu une voix. Quelle voix? La voix du Père. Et qui est-ce qui était au milieu d'eux? C'était Jésus. Ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul avec eux. Et ils avaient donc comme vision Jésus, et puis la voix leur disait, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Donc avant d'écouter Calvin, avant d'écouter Luther, avant d'écouter d'autres hommes qui ont été des hommes de Dieu, des hommes employés par Dieu, nous voulons entendre Jésus et nous souvenir de l'exhortation de Marie, la mère bénie de notre Seigneur, et qui a dit aux serviteurs le jour où le vin manquait aux noces de Cana, qu'est-ce qu'elle leur a dit? Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, quand vous voulez défendre certaines positions qui vous sont chères dans une assemblée, eh bien, vous avez à dire, eh bien, vous pouvez ne pas penser comme nous, mais nous suivons ce que Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Nous essayons de suivre ce conseil. Qu'a dit le Seigneur sur ceci? Qu'a dit le Seigneur sur cela? Et si vous pouvez me montrer mieux, eh bien, je suis prêt à suivre. Si vous pouvez me montrer que le Seigneur a demandé cela, si vous pouvez me montrer que le Seigneur a dit cela,